Bravade Technologies. Équipez vos employés avec les meilleurs outils de communication grâce à Bravade Technologies. Que ce soit pour une flotte de téléphones ou de tablettes, leur équipe d'experts vous orientera vers les solutions adaptées à vos besoins. Bravade Technologies améliore la productivité et les communications de ses clients. Pour des choix judicieux qui collent à votre style de vie, faites affaire avec Bravade Technologies. La PPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre premier épisode du podcast « Dans les coulisses de la PPQ ». Mon nom est Dominique Roberge, je suis vice-président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Je suis en compagnie de Jeffrey Saint-Hilaire, qui est aussi vice-président de la PPQ. Salut Jeff.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, on reçoit pour lancer notre podcast des partenaires qui sont vraiment importants pour nous, qui sont importants pour la PPQ. On reçoit nos amis de la Vigile, Geneviève Arguin et Yves Crépeau. Salut. Bonjour. À vous deux.
Bonjour.
Mais avant de commencer, puis parce qu'il s'agit de notre premier épisode, je veux prendre juste 2-3 minutes pour expliquer le projet. En gros, c'est quoi le podcast de l'association? Première chose, pourquoi un podcast? Bien, parce qu'on veut informer nos membres des projets puis nos partenariats qui sont en cours puis ceux qui sont à venir, autant pour nos membres que pour l'association. On veut amener nos membres avec nous dans les coulisses de la PPQ. Dans les différents constats qu'on a fait à l'association depuis les derniers mois, on en est venu à la conclusion qu'on veut puis on doit s'adresser directement à nos membres. On publie déjà dans nos revues, on fait déjà des communiqués aux membres, aux délégués. Oui, on est davantage présent sur les réseaux sociaux, on s'adresse à nos directeurs, on veut que l'information circule ensuite, mais il n'y a rien de plus efficace et de plus authentique que s'adresser directement à notre monde. Deuxièmement, on a choisi le format de podcast audio parce que, oui, c'est une tendance, c'est connu, c'est apprécié par notre monde. Puis on a fait un sondage un dernier mois qui démontre que nos membres avaient d'ailleurs démontré un intérêt vraiment élevé pour un podcast. Fait qu'on est allé dans cette voie-là. Aussi, c'est un format qui se colle bien à la réalité de nos équipes sur le terrain. Hein. Ils peuvent écouter le podcast dans l'auto, en travaillant. C'est facile, c'est léger, pas de visuel avec ça. Puis sans oublier que c'est une façon super conviviale puis directe de s'adresser à nos membres. Dans ce podcast-là, on va faire découvrir l'association par des entrevues qu'on va faire avec des partenaires qui gravitent dans notre environnement puis qui ont un impact majeur sur notre fonctionnement, sur notre efficacité à vous représenter. On ne donnera pas des longs cours sur c'est quoi l'association, c'est quoi l'histoire de l'association. À la place, on reçoit du monde super dynamique, puis on va parler de ce qui se passe, ce qui a un impact pour vous. Donc, on fait une première série de 12 épisodes. On veut ça court, dynamique, divertissant. On ne va pas prendre 2 heures à jaser lentement pour vous endormir, puis ça finira plus. On veut que les membres puissent écouter ça au travers de leur vie quotidienne puis de leur travail. Le podcast, vous allez voir, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, ce qui fait en sorte que nos collègues policiers de d'autres corps de police peuvent aussi nous écouter, des collègues qui travaillent en sécurité publique, des gens qui nous aident et qui nous supportent dans différentes ressources en santé, puis il y a monsieur, madame, tout le monde aussi qui peuvent nous écouter. Il va arriver dans le podcast qu'on voudrait faire un balado privé. Ça va arriver à l'occasion. Ça va être des petits moments qui vont être réservés seulement pour nos membres et qui vont être disponibles sur le site de la PPQ seulement, dans la section membres. Quand on va tomber dans du plus technique, du plus précis seulement pour les policiers de la Sûreté du Québec, c'est là-dessus qu'on va vous référer. Il y aura toujours un lien, quand ça va arriver, on va vous le dire, il y aura toujours un lien dans la description de l'épisode du balado. Donc, vous allez voir, là, on n'a rien réinventé. Il existe déjà des centaines, des milliers de balados ailleurs. L'OPP Association en a déjà un qui sont rendus à plus de 120 épisodes. Ça va bien de leur côté. On veut quelque chose de disponible pour nos membres, mais sans être trop lourd, sans être trop compliqué à produire. Et non, nous n'allons pas recevoir Guillaume Latendresse, ni Maxime Lapierre de la Poche Bleue, ben non. Et non, nous n'allons pas recevoir Hélène Boudreau. On va plutôt présenter juste quelques-unes de nos partenaires super importants, super intéressants, dans le but de vous faire connaître davantage sur quoi l'association travaille réellement au quotidien. La PPQ, c'est pas seulement des griefs, c'est pas seulement un congrès. Il y a plein de dossiers en constante évolution. Alors, on a engagé un super producteur qui est très connu dans le milieu, qui s'appelle Chuck. Charles pour les intimes. Charles produit déjà beaucoup de plusieurs podcasts, donc on a demandé un coup de main pour sortir quelque chose qui sonne bien, Merci Charles de nous aider à réaliser ce projet-là, qui est modeste, mais je dis modeste parce qu'on se trouve dans une petite salle à l'association. Ceux qui sont déjà venus ici, vous allez voir, c'est assez modeste, effectivement.
Qui a été décoré, pour dire. Ouais. Là,
on a essayé de mettre ça beau un peu pour que ça sonne pas pire. En fait, c'est l'ancienne papeterie. Fait qu'on a sorti du vieux stock qui servait plus depuis des dizaines d'années.
Puis comment s'appelle le local?
Ben, le studio s'appelle La Papeterie à cause de ça. Pas le choix. On récupère ce qu'on peut. Aujourd'hui, là, on enregistre 3 podcasts. On devait en avoir 4 originalement à enregistrer. On a eu un désistement pour une raison très, très comprenable. Donc, question de maximiser notre temps puis réduire les coûts, on enregistre des podcasts plusieurs la même journée. Puis parlant de coûts, ben, vous savez, vous avez remarqué au début de l'épisode, on a des généreux commanditaires qui vont vous être nommés en début de chaque épisode. Ils assument les coûts de production du podcast. Donc, c'est super efficace, super efficient. La business de la PPQ continue à rouler à tempête pendant ce temps-là. Ne vous en faites pas. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'entrevue pour de vrai. Bonjour Geneviève, bonjour Yves.
Bonjour Dominique.
Merci d'être descendu de Québec. Honnêtement, la route aller-retour, je sais que ça fait toute une journée, mais pour vrai, là, on tenait à ce que vous soyez là, puis on tenait à ce que vous soyez là pour le premier épisode. C'est super significatif pour nous. Fait que c'est très important que vous soyez assis avec nous autres le matin.
Ça nous fait très plaisir d'être présent.
Premièrement, ben, j'aimerais ça vous présenter. Les gens, il y a des gens qui vous connaissent, d'autres qui vous connaissent un petit peu moins. Geneviève, directrice générale à la Vigile.
Oui.
Parle-nous donc de ton rôle.
Oui, c'est ça. Directrice générale là, depuis septembre 2018.
Okay.
J'ai remplacé justement le fondateur qu'on va avoir la chance de parler, de M. Jacques-Denis Simard.
Ben oui.
Donc, et moi, petite histoire courte, j'étais dans le domaine financier. J'ai travaillé dans les caisses, des jardins, à la Sun Life. Et bon, mon désir était vraiment... oui, j'accompagnais les gens au niveau financier, mais j'avais envie de faire une plus grande différence pour eux. Alors,
je confirme que ça a fonctionné. Je confirme que c'est un bon choix.
Alors, je confirme aussi.
Alors, c'est ça. Et on m'a approché là, pour le poste de directrice générale.
Okay.
J'avais jamais fait ce poste-là. Donc, ça a été un très grand défi pour moi, mais combien agréable à tous les jours d'être là pour les gens qui utilisent nos services.
Parce que tu as effectivement des défis au quotidien, hein, de gestion, de ressources humaines, financiers, de financement et tout ça.
Plein de choses.
Oh oui, on connaît ça. Yves?
Alors, écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier l'Association des policiers provinciaux du Québec de l'invitation que vous nous avez faite.
Ben, merci, c'est super gentil.
De participer à ce podcast-là aujourd'hui. Ce qui va nous permettre de mieux faire connaître les services de la Maison de la Vigile. Alors,
oui.
Un gros merci.
Ça me fait
Alors,
plaisir.
Yves Crépeau. Je suis un policier retraité de la Sûreté du Québec. J'ai fait carrière pendant 35 ans, embauché en 1971,
hey.
Retraité en 2006.
Tu faisais quoi, Yves? Explique-nous ça un peu, là, qu'est-ce que tu faisais?
Alors, écoutez, après l'École nationale de police, à l'époque, on appelait l'École de police tout court.
L'IPQ.
À Nicolette, l'IPQ, l'Institut de police du Québec. J'ai commencé ma carrière, ce qu'on appelait dans ce temps-là, le Bureau des affaires graves, le BAG à Québec, pendant 6 mois.
T'avais-tu un auto avec des portes jaunes? Ou...
À mon arrivée, oui. Les portes étaient jaunes déjà à ce moment-là. Et après 6 mois...
C'est quoi le BAG? C'est un bureau d'enquête, un peu comme les crimes majeurs, à peu près?
Il appelait ça le Bureau des activités générales,
BAG.
Okay. Pour ça, nous, communément, on disait Bureau des affaires graves.
Ah, OK, c'est pour ça.
C'était une joke un peu entre nous, les policiers qui étaient là au BAC à ce moment-là. Mais en fait, on faisait un peu toutes sortes de choses en notre début de carrière.
Okay.
Entre autres, le transfert des détenus, la surveillance du Parlement, toutes sortes de choses comme ça,
okay.
Avant d'être transféré sur un poste, un détachement.
OK. Puis
alors,
qu'est-ce
qui a fait que tu t'es ramassé à Vigile?
Bon, ça, c'est une grande, c'est une bonne, très bonne question. Alors, en fait, j'ai connu la Vigile grâce au fondateur,
qui
est Jacques-Denis Simard.
Qui est un ancien de la Sûreté aussi.
Jacques-Denis Simard, qui est un ancien policier de la Sûreté du Québec aussi, qui a fait carrière au-dessus d'une trentaine d'années, là, comme moi.
Okay.
Alors, Jacques-Denis, qui est un policier qui a fait différents détachements aussi, entre autres, 3 pistoles à l'époque, après ça, Québec.
Okay.
Alors, c'est comme ça que j'ai connu la Vigile pendant que j'étais à Québec. Puis aussi, parce que je connaissais déjà Jacques-Denis Simard comme étant un confrère de travail.
Donc, sous le CA depuis une couple d'années?
Alors, je suis arrivé au conseil d'administration de la Maison de la Vigile en 2006, au moment où j'ai pris ma retraite.
Okay.
Est-ce que c'était à la fondation de la Vigile ou...
En fait, la Vigile existait déjà à ce moment-là. La Vigile a été fondée officiellement le 12 novembre 1999.
OK.
Alors, c'est avant mon arrivée. Mais à cette époque-là,
Dans le fond, cette année, vous allez fêter votre 25e officiellement, là?
Oui, on est
proche du 25e. Au mois de novembre, ça s'en vient?
Oui, mm-hmm. Oui. Alors, dans le fond, avant mon arrivée avec la Vigile, à partir du 12 novembre 1999, officiellement, il y a un groupe de gens, incluant Jacques Denis, Simard, le fondateur, qui fait un petit historique rapide. Là, oui. Qu'est-ce qui a fait que la Vigile est devenue la maison de la Vigile? En fait, l'idée était vraiment de Jacques-Denis Simard, qui a fait partie, entre autres, du premier programme d'aide au personnel à la Sûreté du Québec. Okay. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, vous êtes pas mal jeunes, vous autres, là, mais il n'existait rien.
Ça dépend quelle année.
Ouais,
dans
les
années 70.
Les jeunes comment, là?
Ouais, là, moins.
Alors, dans les années 70, il n'y avait aucun programme d'aide au personnel pour les policiers de la Sûreté du Québec. À un moment donné, le besoin est arrivé. Et le premier programme qui existait de façon officielle, qui a été instauré par la Sûreté du Québec, la direction, ils ont pris des policiers sur le terrain qui avaient des aptitudes, dont Jacques-Denis Simard.
Parce qu'il était diac, je pense. Ça,
non, il avait ça n'a pas rapport.
Non,
il n'était pas parce qu'il était diac, c'est parce que Jacques-Denis avait déjà à ce moment-là un intérêt très, très marqué, très profond pour venir en aide à ses confrères de travail qui vivaient des problématiques.
Relation d'aide un peu.
Relation d'aide au personnel.
Peu peut-être de sentinelle qu'aujourd'hui, là, des gens qui sont en milieu de travail, mais qui sont sensibilisés à ça, qui sont ouverts, qui sont reconnus par les pairs.
Exactement. Alors, genre, je parle pour lui un peu, parce que c'est certain que je me mets à sa place, là, mais ce que j'en sais. Alors, Jacques-Denis avait l'intérêt, puis il avait été choisi de faire partie du premier programme d'aide au personnel.
OK, il avait décollé.
Alors, lui, puis deux ou trois autres policiers couvraient la province de Québec au complet.
OK.
Puis ils se déplaçaient?
Ils se déplaçaient. Oh. Alors, il y avait un appel d'un membre qui avait une problématique quelconque. Jacques-Denis, il sautait dans sa voiture, puis même si c'était à Bécomo, il partait, puis allait le rencontrer.
Dans le cadre du travail.
Dans le cadre du travail. Il était payé à ce moment-là, il était détaché. La Sûreté du Québec permettait à ces gens-là, il était détaché à plein temps.
Tu vois, c'est quoi que je savais pas? Parce que, tu sais, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai été longtemps conseil d'administration avec vous, puis je ne connaissais pas cette histoire-là. Alors, c'est intéressant à savoir. Alors,
c'est pour ça que ça explique le 35 ans de carrière.
Oui, ouais, c'est ça.
Alors, c'est ça qui a fait que Jacques-Denis avait un intérêt marqué pour l'aide au personnel. Okay. Puis après ça, ben là, il est arrivé. La Sûreté du Québec a décidé de faire affaire avec des firmes
externes
spécialisées dans le domaine.
Puis. Où c'est situé, proche des chutes de Montmorency, là, à l'entrée de l'île d'Orléans, ça fait combien de temps que la Vigile est là?
Alors, la maison a été achetée le 27... En fait, on a pris possession de la maison le 27 novembre 2012.
OK.
Alors, à partir de cette journée-là, on était chez nous, propriétaires, puis on... Okay.
Geneviève, je suis déjà allé te voir là-bas, puis Jeff est déjà allé aussi. Là. Pour les gens qui sont jamais allés, qui ne connaissent pas, là, décris-nous un peu comment ça fonctionne.
Ça ressemble à quoi?
Bien, tout d'abord, c'est certain que la bâtisse, on est à côté d'une église. Donc, notre bâtisse, c'est un ancien presbytère. Alors, pour ceux qui ont déjà été à l'école privée, ils vont trouver que ça n'a pas... En tout cas, pour moi, qui ai déjà fait l'école privée, je trouve que ça a une ressemblance à...
Les planchers qui craquent, puis...
C'est ça, exactement, ça, les grands plafonds. Alors, oui, les gens, quand ils arrivent chez nous, ce qui est très particulier et commentaire qui revient très souvent, la porte de bois, qu'elle est, semble-t-il, pour les gens qui viennent vraiment chez nous, est très pesante parce qu'elle est lourde de sens quand on l'ouvre pour la première fois.
C'est une bonne image.
Elle doit être significative en sortant aussi. Hein?
Oui, effectivement.
Ah oui.
Et il y a aussi une petite pente avant d'arriver à la porte. Et elle aussi, semble-t-il que c'est une pente qui
interminable.
Semble...
Interminable.
Oui, très abrupte.
Comme dans un film, elle s'étire quand c'est le temps de rentrer, puis tu marches, puis on dirait
t'avances. C'est ça, plus. Exactement.
Okay.
Donc, quand on arrive, bien évidemment, on est tout de suite dans les airs communs. Les gens sont toujours accueillis par la personne à la réception et la personne qui fait les admissions, justement, c'est l'infirmière.
Si moi, mettons, je vais aller là, je peux-tu rentrer comme je veux là-bas?
Non, malheureusement, il y a un certain processus à faire. Les gens vont nous appeler parce que, évidemment, que oui, on accompagne les gens pour qui ont des problématiques de dépendance ou qui ont des problématiques un peu plus de santé mentale, comme des symptômes de dépression, gestion des émotions, des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Donc, ces gens-là vont venir chez nous pour qu'on les accompagne à ce niveau-là. Mais on doit justement s'assurer qu'on est le bon endroit pour eux. Alors, il y a une entrevue qui va se faire téléphonique justement avec notre infirmière. Notre entrevue qui peut durer peut-être 45 minutes, 1 heure. Okay. Dans l'objectif de savoir c'est qui on reçoit chez nous, on va faire une évaluation risque suicidaire, risque homicidaire, également un topo de la santé de la personne. Parce qu'on veut juste s'assurer qu'on va répondre aux besoins de la personne et que cette personne-là, ben ça va être adéquat comme environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier, à la vigile, c'est un bel endroit sur 3 étages. Les gens sont quand même libres de se déplacer. Donc, j'ai envie de dire que si vraiment on a quelqu'un en état de crise, exemple, crise suicidaire, malheureusement, on ne pourra pas le recevoir tout de suite.
Parce qu'il ne rentre pas dans le créneau, on va dire, dans le barème.
Bien, c'est parce qu'on ne pourra peut-être pas assurer sa sécurité. Donc, on préfère dire à la personne, le référer peut-être à d'autres ressources en attendant, soit services externes ou d'autres ressources. Mais après, il pourra revenir peut-être dans 2-3 semaines quand la crise sera passée, mais il faut s'assurer que cette personne-là, elle est stable.
Stabilisée avant de rentrer, parce que tu as d'autres patients sur place. Tu as des gens en quête de stabilité, eux autres aussi.
Exactement. Il ne faut pas déstabiliser le groupe. Et en plus, ben justement, il ne faut pas mettre cette personne-là en danger là, contre elle-même. Là.
Parlant des gens, c'est quoi la particularité de la vigile? C'est quoi les gens qui peuvent aller là?
Bien, les gens, majoritairement, on est spécialisé avec, justement, les premiers répondants. Donc, premiers répondants, évidemment, ça inclut policiers,
pompiers,
paramédics,
armées.
Les gens de l'armée, répartiteurs 911, agents correctionnels, provinciaux, fédéraux. Et on a aussi le volet de tous les professionnels de la santé, c'est des infirmières, des médecins, entre autres. Là.
Oui.
Et aussi les membres des familles.
Okay.
Donc, évidemment, nos gens vont vivre des situations particulières de par leur métier.
Oui.
Mais on a aussi les conjoints-conjointes, peut-être, qui vivent une réalité des fois pas toujours facile. Et on est là pour les accompagner,
puis
et
ça,
autant pour leurs enfants.
Ça peut
aussi
être relié au travail ou pas, parce que le travail de policier a un impact sur la vie de famille. Ça peut générer un besoin de vous contacter, mais ça peut être aussi relié à une autre cause complètement, pour la famille, pour les enfants aussi. Là.
Exactement. Okay. Et ces services-là, ben, j'ai envie de dire que tout débute par notre ligne d'aide, qui est disponible 24/7, 7 jours sur 7.
C'est quoi le numéro?
Le numéro, c'est le 1-888-315-0007.
Parenthèse, le numéro puis votre adresse pour votre site Internet, il va être dans la description de l'épisode. Fait que sur toutes les plateformes, si vous avez besoin de ce numéro-là, garochez-vous pas prendre des notes, il est dans la description de l'épisode.
Bien, c'est parfait parce que c'est souvent la première porte d'entrée. Ce service-là est offert gratuitement à tous. J'ai envie de préciser que c'est grâce au ministère de la Sécurité publique. On a un financement pour cette ligne-là d'aide-là, qui est un financement ponctuel, mais
qui vient à terme.
Normalement, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 2026, ça va venir à terme.
Okay. Donc, quand les gens du ministère vont entendre ça, ça serait bon qu'ils continuent à donner les budgets.
Continuer ce financement-là.
Exactement. Puis que les gens, justement, l'utilisent pour démontrer que, évidemment, que c'est un service, j'ai envie de dire que c'est un service qui est aussi très utilisé. Là.
Parce que c'est un service essentiel pour nous autres.
C'est un service essentiel pour nous autres. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'on a eu dernièrement une réunion. On a une réflexion à l'interne sur notre service des assurances. Okay? Puis il y a des travaux qui se font là-dessus. Puis les membres ont été consultés. Puis vous seriez surpris que la priorité numéro un dans notre régime d'assurance collectif, c'est les services de la vigile. À près de 90%, c'est un service qui est jugé important et essentiel dans les catégories. Là. Fait que, notre partenariat avec vous autres, c'est vraiment important. Ça aide vraiment des gens. C'est une opportunité à laquelle ça peut arriver qu'une personne fasse affaire avec vous pendant toute sa carrière, mais quand ça arrive, c'est vraiment important. Puis juste de savoir que vous êtes là, vous êtes un filet de sécurité, c'est rassurant pour tout le monde. Puis tout le monde tient à ça. Fait que...
Parce qu'on ne se cachera pas, hein, ce qui est en montant, c'est les problèmes au niveau qui est de santé mentale, mais c'est tout ce qui gravite autour des membres qui sont dans la sécurité publique. On le voit avant, on avait peut-être un peu
la fierté, la coquille, un peu.
On était comme le super-héros, mais là, ça a été démocratisé, puis on se cache pas pour aller chercher de l'aide, dont la vigile, on le sait exactement que c'est ce que les gens ont besoin, puis je trouve que c'est important qu'on en parle aujourd'hui de ça.
Puis juste pour clarifier vos deux mandats, parce qu'on le sait, là, mais là, vous avez un mandat à l'interne. Ça veut dire, moi, je fais le pas, je peux vous contacter, puis je vais aller faire un séjour chez vous. Mais vous avez aussi des suivis à l'externe. Ça se peut que je fais le pas, on m'évalue, puis on dise, Dominique, quelqu'un va te rappeler, on va te trouver un professionnel qui va faire affaire avec toi, qui va t'offrir un suivi, c'est ça?
Exactement, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de venir chez nous pendant 30 jours, on s'entend, là. Il y a souvent un crescendo, j'ai envie de dire, de la situation. Alors, souvent, les gens vont justement nous appeler par la ligne d'aide. Après ça, ben ils vont s'informer sur sur nos services et souvent le service suivant, bien, c'est le référencement à l'externe. Référencement à l'externe, en simple mot, ça ressemble beaucoup à un programme d'aide aux employés. C'est que nous, on a un réseau de professionnels à travers la province. Donc, on a quelqu'un d'Abitibi, on a quelqu'un de la Gaspésie, on a des professionnels qui connaissent la réalité.
Fait que c'est à travers la province, là.
Exactement.
Fait que c'est pas obligé d'être à Québec. Moi, là, si je suis à Montréal, je peux vous appeler. Si je suis à Côte-Nord, comme tout, à Gaspésie, je peux appeler, puis vous allez... Ils vont rentrer dans votre créneau. Ils sont comme surveillés, si on veut, par vous. Ils comprennent c'est quoi être... travailler dans la sécurité publique.
Juste ça, Jeff, ça fait la différence. Des gens qui connaissent la réalité du milieu de la sécurité publique, du milieu policier, pour les gens qui ont des consultations ou un suivi, de pas avoir à expliquer dans une première rencontre c'est quoi la job de police, c'est quoi les quarts de travail, c'est quoi les choses qui sont difficiles à vivre. Juste ça, c'est un trouble de moins. Puis t'es capable de parler des vraies affaires plus rapidement pour te soulager un peu des problèmes que tu vis, là.
Parce qu'on se cachera pas, là, c'est souvent ça la barrière. Ouais. Hein, c'est que là, on, t'as la gêne, t'as dit « moi, je suis dans l'uniforme », puis là, bon, comprendront pas ce qu'on vit parce que on le sait, on fait la job, mais c'est quelque chose qui est particulier, puis dans un an, on peut vivre ce que personne ne va vivre d'une carrière. Là.
Exactement, puis souvent, il va y avoir une crainte de peut-être, j'entends souvent, de briser l'intervenant, tu sais, des fois, le policier ou la personne qui consulte va avoir peur de raconter tout ce qu'elle a envie de dire parce qu'elle ne sait pas...
Pour protéger.
Oui, là. Pour protéger un peu le professionnel parce que...
Tellement ça peut être lourd émotivement.
C'est ça, donc nous, sommes quand même habitués d'entendre des histoires pas toujours agréable à entendre. Et justement, dépendamment des organisations, ce service-là peut être offert gratuitement. Pour d'autres organisations, ben, ça sera aux frais de la personne, mais j'invite évidemment, justement, tous les membres de la PPQ, le service est offert gratuitement, autant le service à l'interne qu'à l'externe, aux policiers, à la conjointe et aux enfants également.
Ayant été sur le CA, là, puis on sait que le podcast va trouver à tout le monde. Si jamais, mettons, il y a d'autres corps de métier qui voudraient faire affaire avec vous, est-ce que c'est possible?
Bien sûr, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on m'appelle directement. C'est moi souvent qui va regarder pour créer les ententes avec les organisations. Puis c'est toujours des ententes qui sont personnalisées parce qu'on comprend que ce n'est pas toutes les organisations qui ont les mêmes capacités financières ou qui ont les mêmes besoins. Donc, à ce moment-là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui peut être mis en place. Ouais. Puis ça va...
Parce qu'il y a un enjeu au niveau de votre clientèle. T'sais, on veut des gens qui se mélangent avec des policiers, des intervenants du d'urgence, fait qu'il y a toujours des sensibilités, des choses à faire attention.
Oui, surtout pour le service externe, ça va être vraiment précisément pour les porteurs d'uniformes ou les gens du professionnel de la santé. Okay.
Tu sais, avec ça fait un bout que vous faites ça. Moi, là, j'aimerais que... Est-ce qu'il y a des bons coups, là, tu sais, quelque chose que vous avez vu, là, que vous voudriez souligner qui vous vient en tête?
Moi, j'en ai un tout récent. On a reçu quelqu'un qui est un policier et que malheureusement, il est décédé aujourd'hui là, d'une maladie X. Là. Et cette personne-là, ben, sa famille, avant que la personne décède, pour lui, c'est important que sa famille nous appelle. Et ils nous ont appelés pour nous mentionner que depuis son séjour à la vigile, ça avait été la plus belle période de sa retraite. Ah, okay. Et cette personne-là avait au-dessus de 78 ans, là, donc ça faisait déjà un bout qu'elle était à la retraite. Et pour lui, son passage à la vigile, ça avait été le plus beau moment de sa retraite là, depuis qu'il était passé.
Oui, il avait permis d'avoir un moment de paix avant de partir.
Exactement, j'ai envie de dire de faire face à ses démons, puis de pouvoir être apaisé pour la suite des choses.
Bon.
Alors, j'ai envie de dire que ça vaut plus qu'une paye.
Je suis content d'entendre ça. Puis, on le voit, là, ça change les vies. Vous avez changé la vie d'une personne, mais des familles. Là,
on entend chaque année, Jeff, en congrès, là, des gens qui ont fait affaire à vos services, à l'interne, à l'externe, ou des gens qui connaissent là, vos services, puis l'efficacité. Là. Puis, c'est marquant à quel point les opinions sont tranchantes sur l'efficacité. Puis tantôt, quand on parlait des ressources externes, en parlant de bons coups, j'allais dire, vos ressources externes aussi nous donnent un coup de main comme représentants syndicaux. Des fois, on fait des suivis avec des membres qui vivent des situations vraiment difficiles ou des situations de crise. Puis sans nécessairement que les gens rentrent chez vous, bien, vos ressources à l'externe, vos partenaires peuvent nous donner un coup de main. Moi, j'ai passé à un moment donné à peu près 12 heures dans mon camion sur le coin d'une rue avec une intervenante qui est une ancienne membre de la PPQ, Joanne Moreau. Joanne nous avait donné un coup de main parce qu'il y avait un membre qui vivait une situation X qui était en crise, puis on devait aller le récupérer en psychiatrie avec sa conjointe. Puis finalement, bien, l'hôpital étant ce qu'elle est, on attendait qu'il sorte, on attendait. Joanne a passé 12 heures avec nous autres, discuté avec la conjointe, préparé la sortie, la prochaine étape et tout ça. Puis c'était merveilleux comme travail qui a été fait. Fait que ça nous donne un coup de main pour vrai.
J'aimerais juste ajouter une chose pour renchérir sur ce que Geneviève a dit tantôt par rapport à nous, à la qualité de nos psychologues à l'externe.
Oui.
Je peux vous confirmer, puis je dis ça sans aucune prétention, qu'il y a des organisations, je ne les nommerai pas actuellement, qui sont jaloux
j'ai pas de doute.
De notre réseau.
Dis-nous un nom.
Ça, c'est important que je le dise, parce que pour rassurer notre clientèle potentielle, nos clients, ils peuvent être très à l'aise, parce que quand on dit qu'il y a des organisations qui essaient d'avoir un réseau développé comme le nôtre, ils ne sont pas capables.
Ils sont incapables de recruter.
Ils sont incapables de recruter, sont incapables de recruter ce genre de psychologues-là qui sont spécialisés, qui connaissent les besoins des premiers répondants comme nos psychologues. Alors, c'est un plus pour nous et pour nos clients.
Moi, la vigile, tu sais, quand on l'entendait parler, là, comme policier, je l'entendais parler, mais je ne savais pas vraiment c'était quoi. T'sais, on entendait parler un peu. Quand je suis tombé directeur en 2016, en l'espace de 2-3 semaines, j'ai rentré deux personnes, un arrêt de l'autre. Et là, j'ai compris qu'est-ce qu'était la vigile et son importance. Puis j'ai vu la transition qu'il y a eu, là, tu sais, parce que ton arrivée, Geneviève.
Mm-hmm.
Puis moi, je dois te féliciter parce que tu as vraiment relevé le défi qui était un très grand défi, on se rappelle.
Oui.
Merci.
C'était à plein temps, Yves, durant l'été, Yves aussi, là, il était à retraite, mais il n'était pas à retraite encore à l'époque.
Il y a eu beaucoup d'accompagnement.
C'est oui, ça, c'était une job à temps plein.
Un bel accompagnement.
Et ça a été pas évident de remonter ça, de reprendre le flambeau. Puis pour vrai, là, je tenais à ce que tout le monde entende, sache que tu as fait ça avec bravo, fait que brio, fait que félicitations.
Bien, merci beaucoup, Jeffric.
Puis vous avez toujours la pression de vivre à la quête de financement, parce que tantôt on l'a dit, là, vous avez une partie financement public pour la ligne d'urgence, mais ça paye juste la ligne d'urgence. Là.
Exact.
Pas la nourriture, les employés, le chauffage, toute l'infrastructure. Là. Fait que sinon, vous fonctionnez avec des dons.
Exactement. Dans le fond, nos services, ils ont un coût, donc il y a des revenus sur le coût de nos services, mais tout le restant, c'est des dons que l'on reçoit, principalement, j'ai envie de dire, des organisations. Évidemment, la PPQ en fait, j'ai envie de dire, il y a un soutien majeur pour la vigile. La Caisse des policiers aussi. Mais oui, toutes les autres organisations qui travaillent avec nous organisent des tournois de golf, organisent plein d'activités pour que la vigile, au bout du compte, on puisse en arriver à pouvoir justement faire vivre notre mission. Et j'ai envie de dire, tu sais, puis je suis quand même assez fière du soutien que l'on a ces organisations-là, parce que
c'est récurrent.
À chaque année, là, sans exagérer, on a à peu près un 400 000 là, d'argent qu'on va chercher de ces organisations-là, de toutes ces activités-là. Donc,
mais c'est une lutte quand même. C'est pas de l'argent récurrent, c'est pas de l'argent garanti, c'est du combat, c'est à force de bras à chaque fois. Là.
On se cachera pas qu'il faut faire vivre la bâtisse, faire vivre l'organisme, ben, ça prend des fonds comme...
C'est ça. Parce qu'en fait, la réalité, s'il n'y a pas d'autofinancement à la maison de la vigile, on met la clé dans la porte. C'est aussi simple que
c'est
là.
Ça.
D'où
l'importance de l'autofinancement.
Si quelqu'un dirait, ça serait une cause que je voudrais, amener ou ça m'intéresserait, j'ai peut-être de l'argent, un chèque à faire, vous seriez preneur, je pense.
Tout à fait.
Certainement.
On supporte largement, nous autres, la vigile via notre fonds humanitaire de la PPQ. Ouais. Les membres de la Sûreté acceptent qu'il y ait des prélèvements sur leur paye, que ça soit accumulé dans le fonds humanitaire. On a des revenus aussi de publication qui entrent là-dedans, puis à chaque année, on est capable de donner des montants. Ça m'amène au prochain point pendant le financement puis de montants qu'on vous a remis. À chaque année, vous faites un tournoi de golf annuel qui sert de financement pour vous. L'an passé, on vous a remis la PPQ 10 000 $ via notre fonds humanitaire.
Oui.
Cette année, la barre est haute pour notre vice-président Jean-François Veillette.
On va essayer là, tourner la vis. Là, en plus, qu'il va avoir...
Jean-François Veillette?
Jean-François Veillette.
On peut lui tourner la vis, nous aussi.
Oui, c'est vrai.
Il est avec nous sur le conseil d'administration.
C'est ça. Vous savez...
T'as un lien direct avec, là.
Parlez-nous donc de ce tournoi-là, 14 juin.
Écoutez, vous savez que c'est un tournoi de golf qui est annuel, récurrent, depuis quelques années. L'organisateur, c'est Christian Lattler, qui est un policier de la Sûreté du Québec retraité et ancien membre de l'exécutif de la PPQ.
Exact.
Alors, Christian, qui est impliqué aussi avec la Maison de la Vigile depuis plusieurs années, il a fait partie du conseil d'administration. Il a quitté pour justement la permanence à la PPQ. Et après sa retraite, il est revenu au conseil d'administration. Alors, pour vous dire, qu'en 2024, c'est Christian qui est l'organisateur du tournoi, qui aura lieu le 14 juin prochain.
Au
Grand Portneuf. Et bien, naturellement, on souhaite avoir cette année, l'objectif est très, très grand, au moins 200 joueurs. Ouais.
200 joueurs.
200,
comparativement à l'année passée.
144.
J'y ai parlé, Christian, il y a peut-être deux semaines, puis vu que vous changez d'endroit, vous êtes capable de rentrer plus de foursomes. Oui. Il était inquiet un peu, Christian. J'ai dit, je vais te mettre une publicité dans une revue, je dis, on va parler de toi pendant le podcast. Christian, inquiète pas, tu vas avoir toutes tes foursomes, tu vas être correct pour ton financement. Fait que,
puis on va vous donner un coup de main aussi sur les réseaux sociaux. Nous, on va à partir du 1er mars, là,
cette année, ben, on a un président d'honneur qui est M. Jean-Guy Dagenais. Jean-Guy Dagenais qui est sénateur.
Sénateur Jean-Guy Dagenais, ancien président de l'association ici.
Exactement.
L'année passée, c'était Jacques Pinchot,
président actuel.
OK, parfait.
Alors, on espère beaucoup avoir un grand succès avec notre prochain tournoi de golf.
Aucun doute. Ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main et on va être présent aussi pour vous encourager et vous remettre un chèque au nom du Fonds humanitaire.
Merci.
Ça conclut. D'autres choses. Pour terminer, je vous rappelle que les coordonnées de la vigile, les coordonnées du tournoi de golf, je ne sais pas si vous avez une page ou sur votre...
Ça va être sur le
lien vers votre page Facebook.
Tout peut-être. Va être sur le site de la PPQ.
Sur le site de la PPQ. Ouais. Sur nos réseaux sociaux, on va le partager. Si vous avez des questions, commentaires concernant l'épisode, vous pouvez nous envoyer ça directement à l'association, à communication, avec un S, communication à commercial appq-sq.com. On prend vos commentaires, vos suggestions, si vous avez des messages ou des questions pour Yves, pour Geneviève, ça va nous faire plaisir de leur communiquer ça. On est en contact constant.
C'est tout Dominique qui répond aux questions.
C'est moi qui réponds là-dessus, vous allez voir. Ça va bien aller. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour le premier épisode. Merci énormément à vous deux, pour vrai. Ouais. C'est très
merci
apprécié.
Merci
de nous
avoir accueillis.
Merci du déplacement. Merci. C'est pas évident. C'est quoi, Québec-Montréal?
Ça se fait bien.
Vous pouvez nous écouter la semaine prochaine. On dépose un épisode à chaque semaine. On va créer une habitude avec vous dans les coulisses de la PPQ. Bonne semaine.